Bonjour, ici Claude Blackbelair, qui est toujours installé à Auray pour l'instant. Et nous sommes le 13 avril, le mardi 13 avril 2021. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ma mère. Ma mère, qui s'appelait Michèle Poix, P-O-Y, elle est née le 23 août. 1925. Et ses parents, mon grand-père, qui s'appelait Gabriel Poix, et ma grand-mère, Yvonne Poix, née Malheur. Mon grand-père a connu deux guerres, 14-18, où là j'ai retrouvé une photo en noir et blanc où il soignait des chevaux alors qu'il était médecin militaire. Pendant la guerre de 14-18, les chevaux avaient beaucoup d'importance. Il n'y avait pas de voiture, ou très peu, à part les taxis de la Marne qui sont intervenus vraiment tout à fait à la fin de ce conflit. Et donc les chevaux étaient vraiment très importants pour tirer les lourdes charges, pour charger l'ennemi même. Et mon père, eh bien, mon grand-père plutôt, a cru bon de soigner des chevaux qui avaient été blessés. Il était médecin militaire, pas vétérinaire, mais bon, de l'un à l'autre, il ne devait pas y avoir trop de problèmes. Mon grand-père a été gazé. À l'époque, les Allemands envoyaient des bombes avec du gaz moutarde. Gazé à Verdun. Et il en a toujours tenu, gardé ça en mémoire, parce que, ça l'a beaucoup blessé à ce moment-là. Il avait du mal à respirer à certains moments. Et derrière, eh bien, ça s'entendait. Il avait une respiration un petit peu difficile. Voilà. 39-45, mon grand-père, eh bien, il a été, la guerre s'étant achevée très très rapidement pour nous Français, eh bien, il a été fait prisonnier. Et pour ma part, son petit-fils, j'ai récupéré son casque, j'ai récupéré son uniforme bleu, ses guêtres avec ses boutons, et voilà comment j'occupais mes vacances avec les souvenirs des objets militaires de mon grand-père. Dans les années 70, mon grand-père était médecin colonel en chef de l'hôpital du Val-de-Grâce. C'était l'hôpital où on soignait tous les militaires. Et mon grand-père était médecin-chef de cet hôpital. Il habitait juste à côté, rue de l'Arbalète. Il n'avait que quelques centaines de mètres à faire pour se rendre à son boulot. Mon grand-père avait, en tant que médecin-chef, avait une secrétaire. On l'appelait Tot-Tot. Et Tot-Tot, eh bien, était chargé de me surveiller lorsque mon grand-père m'emmenait avec lui, tandis qu'il pouvait avoir des consultations ou des interventions à faire dans son hôpital. Donc, Tot-Tot, eh bien, me gardait. Alors, pourquoi Tot-Tot? Eh bien, parce que quand on tapait sur les touches de la machine à écrire, eh bien, ça faisait Tot-Tot. Et dans la famille, tout le monde connaissait la secrétaire de mon grand-père sous le nom de Tot-Tot. Je faisais des petites bêtises à cette époque-là. Bon, j'étais pourtant un enfant bien sage, mais, un jour, j'ai ouvert un extincteur de 200 litres qui s'est répandu dans tout le couloir de l'hôpital. Et ça a fait pas mal de ramdam, parce que d'abord, je me suis fait très gronder. Et puis ensuite, il a fallu nettoyer tout ça et puis changer la poudre de l'extincteur, etc., ça avait fait tout un peu de raffus. Voilà ce dont je me souviens concernant mon grand-père. Ma grand-mère, Yvonne. Yvonne était mariée en deuxième noce à mon grand-père, ce qui a surpris toute la famille, parce que comme c'était une femme extrêmement croyante, on imaginait mal ma grand-mère se marier deux fois. Mais, elle s'est retrouvée dans des périodes de guerre, comme beaucoup de gens à cette époque-là. Peut-être qu'elle avait perdu son mari à la guerre, je ne sais pas. Bon, tout est si bien que ma mère a appris assez tardivement le mariage en deuxième noce de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle jouait du piano et elle chantait. C'était assez sympa d'aller passer le jeudi après-midi, tandis que mes parents ne pouvaient pas s'occuper de moi. Eh bien, j'allais non pas apprendre le piano, parce que ça ne m'intéressait pas beaucoup, mais j'allais chanter avec ma grand-mère. Alors, c'était des chants chrétiens, elle chantait un petit peu de tout, elle avait une très jolie voix, comme les voix de l'époque, quoi, des voix très, très aiguës. Voilà. Pendant les deux guerres, 14-18 et 39-45, ma grand-mère a été ambulancière et infirmière, comme beaucoup de femmes de son époque. Mais elle avait son diplôme d'infirmière et ça l'amenait à aller à se rendre au front, aller soigner les soldats. Elle travaillait, et c'est peut-être là où elle a connu mon grand-père, à l'hôpital du Val-de-Grâce. Je ne sais pas comment ils se sont connus. Mais j'ai souvenance d'une femme gentille avec mon grand-père avait fait une très jolie photo de sa femme qui s'appuyait sur la margelle d'un puits, margelle très fleurie, avec un très joli chapeau, tout plein de fleurs aussi. Et ma grand-mère, au milieu de tout ça, était très jolie, jolie femme. Bon, ben voilà le souvenir que j'ai de ma grand-mère. Mes grands-parents avaient deux maisons. Une maison à Maupertuis, qui appartenait à la famille de ma grand-mère, où j'allais passer mes vacances à Pâques. Maupertuis, c'est en région parisienne. Et donc, j'y allais très régulièrement pour les vacances de Pâques. Et mon grand-père avait une maison à Boult, B-O-U-L-T, en Haute-Saône. Cette maison, qui lui venait de ses propres parents, mon grand-père m'y emmenait avec ma grand-mère l'été, où j'allais passer toutes mes vacances d'été. J'y allais un mois tous les ans. C'était d'ailleurs toute une affaire. On partait avec mes grands-parents, on prenait le train, un train avec grosse locomotive, plein de vapeur, etc. On voyageait toute une nuit pour rejoindre la Haute-Saône et ce petit village de Boult. Voilà, alors parlons, après ses parents, parlons maintenant de ma mère. Ma mère est née en 1925. Elle était l'aînée d'un frère et d'une sœur. Le frère s'appelait Jacques et la sœur s'appelait Geneviève. Aujourd'hui, Jacques est mort, ma mère est morte. Jacques est mort et ma tante Geneviève, la sœur de ma mère, est toujours vivante. À ce que je sais, elle est dans un EHPAD et elle n'a pas une très très bonne santé. Ma mère a fait ses études de médecine. Elle restait sur les traces de son père. Pendant la dernière guerre, 39-45, elle passait des messages à vélo. Elle communiquait, elle permettait à la résistance de s'envoyer des messages et elle, très naïvement, sur son vélo, eh bien, transportait des nouvelles aux grandes dames des Allemands installés à Paris. Ma mère a fait ses études de médecine à Paris, comme mon père, et c'est d'ailleurs là qu'elle a connu mon père. Il faut savoir que l'un et l'autre disséquaient tous les deux, le même bras d'un cadavre. À cette époque-là, il y avait des travaux appliqués. Il y avait des cadavres qui étaient récupérés, dont de certaines familles. Et là, ces cadavres étaient conservés de je ne sais quelle façon. Mais les médecins, ou les étudiants en médecine, pour apprendre leur métier, eh bien, faisaient de la dissection. Et mes parents, eh bien, se sont connus sur le même bras. Voilà une rencontre assez étrange. Ma mère a été mariée à mon père en 1947. Jeune mariée, mes parents vivaient chez mes grands-parents paternels, au 5, numéro 5 du boulevard de Port-Royal. Non, je dis une bêtise, au numéro 5 du boulevard Raspail. Pour ma part, je suis né à l'Hôtel Dieu, à Paris 4e, tout près de Notre-Dame, sur l'île de la Cité. Ma mère a accouché de moi le 21 septembre 1948. Tandis que mes parents faisaient leur scolarité universitaire, ma grand-mère, elle, était très fière de me promener dans un joli landau à carrosserie métallique bleu ciel, et elle décrétait à tout le monde que j'étais le plus beau bébé de Paris. Et elle en montrait les photos. J'ai d'ailleurs vu des photos de moi, tout bébé, à Paris. Alors, il faut savoir qu'il y avait des concours de bébés. Et ma grand-mère m'avait présenté à un concours de bébés. Et voilà Tipak avec moi. Elle a gagné le premier prix. On trouve encore dans nos archives familiales des photos de moi et de ce concours si brillamment gagné. Mon grand-père paternel a installé mes parents. À l'époque, les parents prenaient soin de leurs enfants et les installaient, comme on dit. Et il les a installés au 12 boulevard de Port-Royal, là où mes parents ont vécu toute leur vie professionnelle et personnelle et familiale. Mon grand-père a acheté un appareil de radiologie pour mon père. Mon père était pneumophysiologue. Il passait son temps à examiner des malades, malades du poumon essentiellement. Et cette profession de pneumophysiologue l'amenait à faire des radiographies de ses poumons. Et pour ma mère, il lui a acheté tout un matériel pour son cabinet, sachant que ma mère était gynécologue. Là, l'investissement était moindre, parce qu'un gynécologue a moins besoin de matériel que pouvait en avoir l'utilité mon père. Ma mère exerçait à l'hôpital, dans plusieurs hôpitaux parisiens, certaines fois à la Riboisière, certaines fois à Bichat, certaines fois à la Salpêtrière, et elle y exerçait le matin. Elle recevait ses malades de ville à la maison, à l'appartement, l'après-midi. Elle a contribué à la création du planning familial. Mon père, d'ailleurs, a fait la promotion de sa femme en lui dédiant de très nombreux ouvrages de médecine, et notamment « La contraception », livre qu'il a écrit en 1960 et qui a mis ma mère sur les rails. De cette date, elle a eu une certaine renommée parisienne. Elle était reconnue par ses pairs, intervenait dans différents congrès et travaillait beaucoup à la promotion de la contraception et notamment dans le cadre du planning familial qui voyait le jour à ce moment-là en région parisienne. Voilà, je suis très fier d'avoir une mère qui a contribué au bien-être des femmes et au respect de ces femmes et dans la maîtrise de leur contraception. Ce qui était loin d'être le cas à l'époque, c'était très compliqué. Très compliqué, la religion n'était pas favorable à cette contraception. Les députés, les sénateurs voyaient ça d'un œil assez douteux, partant du principe que la femme, elle était bonne à rester à la maison et à élever les enfants. Mettre en route une contraception, malgré tout, a permis à la femme de s'émanciper des hommes, de s'émanciper de leur mari. Et là, Je pense qu'un grand pas a été fait. Mais malgré tout, cette contraception était à certains moments mal comprise. Les femmes avaient des pratiques avec la méthode Ogino, avec différentes choses, et elles ne savaient pas bien utiliser ces règles de contraception. Et la pilule commençait à naître, mais les femmes en avaient peur, les médecins aussi en avaient peur, et tout ça retardait les femmes dans leur façon d'être, dans leur façon de se comporter dans la société. Mais autant le temps, les choses ont évolué. Simone Veil est arrivée par là et a prêché l'avortement, la légalisation de l'avortement. Et petit à petit, les choses se sont débloquées. Ma mère organisait tous les 15 jours un bridge au boulevard de Port-Royal. Elle y accueillait ses amis, elle y recevait le gratin parisien de la médecine gynécologique et pneumophysiologique. Ma mère fumait au grand dam de mon père. Et d'ailleurs, elle m'a donné son briquet, très jeune. J'ai eu le briquet de ma mère, et puis ça m'a donné envie de fumer à moi aussi, ce qui fait que moi, j'ai fumé très jeune. Pendant ces bridges, on buvait du whisky, du Johnny Walker, étiquette noire. C'était une boisson qui était à la mode à l'époque. Et pour ma part, j'avais horreur de ça. J'avais l'impression d'avaler une pharmacie. Tout petit garçon, ma mère s'occupait peu de moi. Elle travaillait, comme mon père, 6 jours sur 7. J'ai juste un petit souvenir. Après la naissance de mon frère, elle me demandait de temps à autre de lui donner le biberon avant d'aller à l'école le matin. Voilà ce que je me souviens quand j'étais vraiment petit. À cette époque-là, je devais avoir 8 ans, 9 ans. Je n'ai pas souvenir que ma mère m'aidait à faire mes devoirs. D'ailleurs, personne ne m'aidait au retour de l'école. À part les bonnes qui me donnaient à goûter. Personne ne me conduisait à l'école. Peut-être une voisine, une jeune voisine de temps en temps. Mais bon, en fin de compte, j'étais très, très souvent livré à moi-même. Très rarement, le dimanche, mon père trouvait une minute pour me faire réciter quelques leçons. Côté scolarité, j'ai été tout à fait livré à moi-même. J'ai jamais brillé dans mes études, je me suis ennuyé. On ne s'occupait pas de moi, mais bon, j'avais ma petite vie de petit garçon. Et voilà, j'avançais peu dans mes études. Je n'aimais pas ça. Je m'ennuyais, les profs m'ennuyaient. Avant 12 ans, je n'intéressais pas mes parents, qui préféraient largement s'occuper de mon petit frère. D'ailleurs, à 9 ans, un an après la naissance de mon frère, j'ai demandé à partir en pension. De ce fait, j'ai peu de souvenirs de discussions avec ma mère. Si à l'âge d'une douzaine d'années, j'aidais ma mère à faire la vaisselle le dimanche, là, on trouvait le moyen de discuter un petit peu. Et ma mère s'intéressait à moi. Elle avait quelques minutes, tandis que j'essuyais la vaisselle, pour me parler. Et puis, je me souviens lui avoir demandé, lorsqu'elle examinait une péripatéticienne, en tant que gynécologue, lorsqu'elle faisait cet examen, je lui demandais si elle pouvait deviner le métier de sa cliente. À cette époque-là, elle m'a répondu que non, on ne pouvait pas distinguer une péripatéticienne d'une autre femme. J'ai donc dû faire mon éducation sexuelle un peu tout seul, mais environné par des parents qui étaient quand même assez bienveillants et qui répondaient à mes questions. Ma mère travaillait beaucoup. Le dimanche, elle faisait la comptabilité de mon père et d'elle-même. Et encore, je me souviens, lorsqu'elle interpellait mon père pour lui demander de facturer sa clientèle un peu plus cher. Mon père était assez large vis-à-vis de ses clients. Il était beaucoup aimé de ses clients, qu'il était humain. Et il savait être attentif à ne pas trop les facturer ses prestations trop chères. Et pour ma mère, un sou était quand même un sou. Depuis l'âge de 9 ans et jusqu'à 18 ans, j'ai été pensionnaire. Encore au bahut, à l'âge de 15 ans, je passais le week-end chez mes parents. Le dimanche soir, je prenais le train pour rejoindre mon pensionnat. Et je revois ma mère mettre chaque semaine, chaque dimanche soir, dans ma petite valise, une boîte de beurre salé pour son petit garçon. Ma mère m'appelait mon petit garçon. Et ça permettait à son petit garçon d'agrémenter son petit déjeuner au lycée. En grandissant, je m'éloignais petit à petit de mes parents, qui restaient tout à leur travail et à parfaire l'éducation turbulente de mon frère. Moi, j'étais très paisible et savais me faire oublier. Ça a toujours été le rapport que j'ai eu avec mes parents, me faire oublier, faire en sorte que ils ne s'occupent pas de moi et qu'ils me fichent la paix. Et ça me permettait d'avoir une bonne liberté, une bonne autonomie. Par contre, lorsque j'étais à la maison, à l'adolescence, il était impossible pour moi de recevoir des filles. Cela ne se faisait pas, me disaient mes parents. Cela ne se faisait pas, à moins de se marier avec. Bon, de ce fait, j'ai très vite quitté le domicile paternel pour voler de mes propres ailes. Un peu fâché, quand même. On ne s'est pas revu pendant 25 ans. Et c'est là où, en 1971, j'ai quitté Paris, que je trouvais trop encombré, pour m'installer dans le midi de la France. Je retournais chez mes parents de manière épisodique. Je n'étais pas forcément le bienvenu quand ma mère s'est diagnostiquée elle-même son cancer du sein. Ma mère a également fait pendant de longues années une maladie d'Alzheimer. Elle était absente. Absente pour mon père, absente pour ses enfants. Et elle en est morte. Elle en est morte en janvier 2012. Voilà la petite histoire de ma mère vue par dans le prisme d'un petit garçon et d'un plus grand qui n'a pas vu ses parents pendant 25 ans et qui, aujourd'hui le regrette, mais ainsi j'ai vécu, ainsi ça a été ma vie. Voilà, et un de ces jours, je vous parlerai de mon père et de mes grands-parents paternels. Voilà, ici va s'arrêter mon enregistrement.